Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage. 2 heures de découverte rieuse pour vous, d'une compétition plus sanglante que la course de chars dans Bénur pour eux. Depuis la rentrée, fini de se la couler douce pour les journalistes d'Europe 1, désormais sommés de se dépasser. Chaque après-midi, ils sont en compétition pour le titre de chroniqueur du jour qui reviendra à celui ou celle dont le sujet vous aura le plus captivé ou surpris. Une compétition qui a totalement purgé la rédaction de toute notion d'amitié ou même de solidarité. Désormais, entre nos journalistes, tout n'est que rivalité, complot et menace à la machine à café.
Avant que ma dernière heure ne soit venue, je me pencherai sur ton corps en souriant.
Pour encadrer les belligérants et leur rappeler les principes quand même de la Convention de Genève, je vous présente Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je suis pas sûre d'être la meilleure pour...
Pour jouer les arbitres ?
Ouais, pour jouer les arbitres.
Tout à l'heure, vous nous direz en tout cas ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Comme notre invité, on va le voir, est un fin lettré et même un agrégé, on reviendra sur l'intéressante construction syntaxique de votre question d'hier à Patrice Lecomte sur le financement de ses films. Une question de 47 mots, pas un seul dans l'ordre.
Tu es une ordure.
Je fais mon métier. Mais d'abord, on accueille notre invité arbitre du jour, un grand écrivain qui, dans son dernier ouvrage, fait sienne la devise aristotélicienne reprise par Horace et traduite par Voltaire. Là, Eva a déjà perdu 776 neurones. Cette devise, c'est mais laissez-moi faire ma phrase. Docere et placere, à savoir s'instruire en s'amusant. Oui, Eva, sachant que la devise de notre émission est elle aussi la citation d'un autre grand philosophe, Plescool. Plescool qui disait « Apprendre en s'amusant ». Je crois qu'avec notre invité, nous sommes faits pour nous entendre. Bonjour Christophe Onodibio.
Bonjour, bonjour.
Vous publiez donc « La minute antique » aux éditions de
entre
l'Observatoire.
Entre Plescool et Horace, c'est entre parfait.
C'est parfait. L'idée des petits chapitres d'une minute pour relire l'actualité à travers le prisme des mythes antiques, c'est ça ?
On peut
le
dire comme ça ? Les mythes et l'histoire antique.
Comment vous est venue l'idée ?
C'est mon côté Plescool. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, comme beaucoup d'ailleurs de gens, j'adore ces histoires absolument dingues où on a des princesses fabuleuses, des armes magnifiques, des chevaux avec des ailes, etc. Et puis quand on regarde, on s'aperçoit que toutes ces histoires ont quelque chose à nous apprendre sur notre époque, que MeToo, il en est déjà presque question là, de couper la parole des femmes. L'idée de l'émigration, on y réfléchit déjà. En fait, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces gens-là, il se trouve, il y a plusieurs siècles, les ont pensés et ils n'ont peut-être pas que des bêtises à nous dire.
On va parler de ce livre passionnant et drôle, mais d'abord je vous présente mes gladiateurs à moi. À ma gauche, ses nombreux thés dans Télérama l'empêchent de se montrer trop agressif dans la compétition et l'obligent à cultiver, ou en tout cas à afficher un certain détachement hautain vis-à-vis de ses concurrents. Mais bon, à mesure qu'il approche quand même de la zone de relégation, Nicolas Caro, notre expert littérature, commence à faire de discrets appels du pied à nos invités, dont la voix compte triple.
Il a un beau sourire de gladiateur.
Moi j'essaye modestement de défendre la littérature, après si les invités veulent m'y aider, tant mieux.
Bonjour Nicolas Caro.
Aujourd'hui, sur vous, Christophe Lennon.
C'est plus qu'un appel du pied à l'invité, c'est carrément du pied que vous faites à l'invité. Ouais. Vous allez nous parler de Huysmans, qui entre à la Pléiade, un auteur encore mystérieux pour le grand public, mais que Christophe Onodibio connaît bien.
Oui, et puis je vous parlerai aussi de la collection La Pléiade elle-même, qui est très intéressante.
À ses côtés, les Grecs croyaient en la déesse Déméter, nous on croit en Anne Le Gall. Notre déesse de la nature et des plantations à nous, sauf que si Déméter était souvent représentée avec une germe de blé, notre Anne Le Gall, elle, chérie, un autre accessoire duquel elle est indissociable.
Le jour où elle abandonne son saucisson, Le Gall.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour, effectivement, je ne suis pas encore végane.
Vous êtes la spécialiste environnement d'Europe 1 et après les chauves-souris en début de saison, vous nous parlez d'un autre animal charmant.
Voilà, je vais vous parler du premier atlas mondial des vers de terre.
Atlas, le livre, pas le...
Oui. La carte, oui. La
géant.
Cartographie.
On n'est pas déjà dans...
Oui. D'accord, très bien. Mais je vous parle des lombriques parce qu'eux aussi sont des dieux. Ce sont des héros de nos écosystèmes, avec la liaison, c'est mieux.
Christophe Onodibio, qui est quand même soit l'invité parfait, soit un acteur incroyable, vient de dire « Ah oui, fascinant, comme si un atlas
ils
des
sont
lombriques... »
Ils sont en danger,
exactement,
d'ailleurs, les
lombriques. Ils sont menacés.
Alors là, je dis chapeau l'artiste. Merci Anne Le Gall. Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
L'équipe est sauvage.
C'est donc l'écrivain Christophe Onodibio qui nous accompagne cet après-midi pour la sortie demain de la Minute Antique, 220 mini-leçons qui nous permettent d'appréhender l'actualité via les mythes de l'Antiquité. Quelques exemples de chapitres au titre gratiné. Karl Lagerfeld, Choupette et les filles d'Oedipe. Didier Deschamps, super mentor. Banksy à Pompéi, les larmes romaines d'Alain Juppé.
Ouais. Ça
m'a presque tiré des larmes. Même. Ou encore, l'affaire Benalla, vue d'avant Jésus-Christ. Ouais. Mais vous voulez pas venir faire une chronique dans notre émission ?
Écoutez...
Pourrait négocier ça, peut-être.
C'est une invitation. On peut en parler. Non, mais c'est étonnant. Parce qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait envie de se pencher vers ces temps anciens et de se dire « mais c'est la même chose, ou presque !» Voilà.
Eva.
Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que vous relisez les anciens de façon perpétuelle et vous dites tiens, ça fait écho à l'actualité, ou vous êtes happé par l'actualité et vous dites tiens, est-ce qu'il y a une référence quelque part et je vais aller la chercher?
Ouais, c'est les deux. Je cite, bon, on a parlé d'Horace tout à l'heure, je cite aussi Alain Bachung, vous savez, pêcheur d'amphores au fond des criques. J'ai l'impression, j'adorerais être un pêcheur d'amphores. Il y en a de moins en moins en Méditerranée, des amphores, dommage. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand l'actualité me tend une perche, quand par exemple un jeune président parle de Jupiter tout de suite, évidemment.
Voilà. Ça vous tend une
quand son
perche.
Ministre. Non, mais c'est vrai que.
Et surtout dans la tour Montparnasse, non?
Dans la tour Montparnasse.
C'est quand même incroyable.
C'est-à-dire le temple des muses. Quand Bruno Le Maire dit I am Hermès, voilà.
Oui, mais ça c'est facile à la rigueur.
Ça, voilà,
ça c'est
ça,
facile.
Prends, voilà.
Mais quand vous allez faire le rapprochement entre le clip de Jay-Z et Beyoncé,
ouais,
avec un concept grec, là c'est un peu plus compliqué quand même.
Là en fait, c'est un peu des images qui me reviennent. On parlait de l'enfance tout à l'heure, et puis je dois ça aussi à mes profs de grec et de latin qui ont fait crever le ciel pluvieux de Normandie pour faire entrer le soleil méditerranéen, etc. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs. On a tous des souvenirs. Donc, sur les migrants, par exemple, c'est vrai que tout petit, on nous a raconté une histoire de la mère d'Apollon et d'Artémis, donc avec ces deux pauvres enfants, dans une ville étrangère qui crève de faim, qui crève de soif, qui trouve enfin une source. Alors, il y a des paysans qui sont là, locaux, elle veut y boire, ils disent « Non, va-t'en, tu n'es pas d'ici, voilà, la France aux Français », c'est presque ça. Et qui, alors qu'elle va boire, se mettent dans l'eau, agitent la boue pour bien que l'eau soit imbuvable. Donc tout ça, ça vient, et parfois je fais des recherches. C'est-à-dire que là, je fais des recherches, mais tiens, qui a pu parler de ça, donc c'est dans les deux sens, c'est assez passionnant, je m'amuse beaucoup à le faire.
La minute antique, se coucher moins bête en découvrant ce que les mythes grecs et romains peuvent nous apprendre de notre société, ça sort demain aux éditions de l'Observatoire. Christophe Onodibio, notre invité, jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, plus qu'un journaliste, c'est un showman qui s'apprête à entrer en piste. Vendredi, il a littéralement bluffé notre invité Stéphane Guillon, qui ne pensait pas qu'on pouvait être à la fois si érudit et si doué pour la comédie. Nicolas, vous devriez faire de la scène.
C'est vrai ?
Non.
Ah, la peur de la concurrence !
Nicolas Caron vous parle d'un auteur méconnu du grand public, mais très connu des universitaires, dont notre invité Christophe Onodibio. Il fait son entrée à la Pléiade, mais qui était Joris Karl Huysmans ? Et plus globalement, à quoi sert la Pléiade ? Nicolas Caron vous dit tout.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1. Christophe Onodibio est notre invité pour la sortie de son nouveau livre, La Minute Antique, quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque. L'équipe est sauvage continue 2 heures pour savoir qui dans cette rédaction mérite son abattement fiscal et qui mérite plutôt d'aller faire un tour au guichet du Pôle emploi spectacle du 15e. Parmi les candidats au titre de chroniqueur du jour, le plus littéraire des journalistes de la rédaction, Nicolas Caro s'apprête à nous parler de la Pléiade, alors qu'un auteur méconnu du grand public mais passionnant y fait son entrée, Joris Karl Huysmans. Sachant, Nicolas, qu'on a déjà philosophé hier avec Patrice Lecomte, et nos neurones, surtout ceux des baroques, sont encore en phase de convalescence suite à des phrases telles que
« Puisque c'est toujours mieux avant, il faut profiter de maintenant parce que plus tard ça va être pire. »
C'est toujours de la comprendre celle-ci. Ma consigne, Nicolas, mollo.
J'y vais doucement. Joris Karl Huysmans, donc, c'est l'auteur notamment d'À rebours, publié en 1884. Je sais que Christophe Onodibio est un fan et même un spécialiste de Huysmans. C'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi le sujet. Mais c'est très très intéressant, Huysmans, parce que c'est pas une star de la littérature. Je veux dire, c'est pas Victor Hugo ou Fitzgerald, mais quand on le découvre, en général vers 20-25 ans, on devient complètement dingue de ses textes, en particulier d'À rebours, c'est son plus connu, et de son héros, des Hyacinthes. Il y a une sorte de club des amateurs de Huysmans. Houellebecq, par exemple, l'adore. D'ailleurs, dans son roman Soumission, le héros est un prof de la Sorbonne qui enseigne l'œuvre de Huysmans. Et effectivement, il y a clairement un héritage, une filiation entre Huysmans et Houellebecq. C'est le même pessimisme, la même façon de tout dire dans un roman sans qu'il ne s'y passe grand-chose. Huysmans, c'est le héros de la décadence, c'est pas le plus optimiste des écrivains, on n'est pas vraiment dans le feel-good book. Huysmans écrit des phrases de ce type. La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Youpi.
Youpi, youpla boum.
Mais voilà, c'est pas très riant, mais c'est incroyablement lucide. Il identifie les phénomènes du monde que personne n'ose identifier. C'est ça ce qui en fait un immense écrivain qui rejoint donc enfin La Pléiade.
Alors, la Pléiade, racontez-nous alors, un petit peu.
La Pléiade, c'est cette collection sublime chez Gallimard. Le livre rassemble en général des œuvres majeures de l'auteur. Il est présenté dans son petit coffret blanc. C'est un livre précieux, imprimé sur papier bible et relié en cuir pleine peau doré à l'or. C'est donc très très beau, un peu fragile
là,
aussi.
Là, vous permettrez qu'on mettra la musique de Téléshopping. Ça ira très bien avec votre énoncé.
C'est un peu fragile. Et d'ailleurs, moi, je visite beaucoup de bibliothèques, comme vous le savez, et je constate qu'on ne lit pas forcément les Pléiades. Souvent, on a plus la version poche des romans pour les lire, et puis la Pléiade, elle est juste dans la bibliothèque.
Mais c'est un signe extérieur de richesse intellectuelle.
Non, c'est pas seulement ça, c'est un conservatoire. On sait que le livre est là, et on le garde éventuellement pour plus tard, éventuellement pour les générations à venir. On n'est pas le propriétaire d'une Pléiade, on en est le gardien.
C'est le slogan de la marque suisse de montre Patek Philippe.
C'est le cadeau parfait. Moi, j'essaye de l'offrir quand il y a une naissance. J'ai une grande amie qui a eu deux fils, par exemple, Oscar et Ernest. Donc, j'ai offert la Pléiade Oscar Wilde et ensuite la Pléiade Hemingway, et ils le liront quand ils pourront et s'ils le veulent. Voilà. Alors, qui est publié dans la Pléiade et qui choisit ? Eh bien, c'est Antoine Gallimard qui choisit, c'est très simple, hein, c'est le patron.
Ah, il choisit tout seul ?
Ouais, ouais, enfin, bien sûr, il y a tout un tas de conseillers, il y a un directeur de collection, etc., mais c'est quand même lui qui décide, et la plupart des grands auteurs y sont publiés, la plupart seulement, pas tous, parfois,
qui
il y a une nouvelle Pléiade et on se dit, mais tiens, il n'y était pas. Et c'est le cas pour Huysmans. Moi, j'étais persuadé qu'il y était déjà. C'était le cas aussi pour Fitzgerald, qui a été édité à la Pléiade il y a 3 ans, 4 ans seulement. C'est complètement dingue. Le premier volume, tel qu'on le connaît aujourd'hui, de la Pléiade, paraît en 1931 et c'était Baudelaire. Alors, ce sont souvent des grands écrivains qui ont marqué leur temps, mais on peut être publié à la Pléiade de son vivant. Jean d'Ormesson, effectivement, Julien Gracq. Philippe Ross, Gide ou Malraux, il y en a une vingtaine sur 250 auteurs en tout dans la Pléiade.
Mais je parlais avec Antoine Gallimard l'autre jour, c'est en discussion pour Christophe Honoré. Oui, c'est bientôt, on réfléchit.
J'ai parlé à toi nous aussi. vous voulez le top 10 des ventes de la Pléiade ?
Ouais, dites-nous.
Alors Saint-Exupéry, évidemment Le Petit Prince, on l'offre très facilement. Proust, tome 1 de La Recherche. Camus. Proust, tome 2, Verlaine, Proust, tome 3, Malraux, Apollinaire, Pascal, Tolstoï.
C'est l'élégance de Proust, vous voyez, toujours aller sur quelqu'un.
Voilà, lui,
c'est indéfaçable.
Merci beaucoup Nicolas Caro. Huysmans pour vous, donc ça représente quoi?
Ah bah, Huysmans, alors non, Huysmans effectivement, c'est la star des décadents. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui ne sera jamais en Pléiade, Jean Lorrain, qui était le meilleur ami du petit frère de Maupassant. Fils d'un armateur de Fécamp, et Jean Lorrain avait la particularité à la fin du 19e siècle de quand il arrivait dans une fête, on le sentait avant de le voir.
C'est-à-dire ?
Parce qu'il buvait de l'éther.
Oh là là !
Et il a écrit les contes d'un buveur d'éther.
Mais on peut boire de l'éther sans mourir ?
Ouais, il buvait de l'éther, c'est magnifique. Alors évidemment, c'est assez hallucinatoire aussi, puisque c'est une époque aussi où il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de satanisme. D'ailleurs, Huysmans a travaillé sur le satanisme dans Là-bas, le livre que citait Houellebecq dans Soumission. Mais c'était très beau ce qu'il disait, vous êtes moqué de lui de façon... J'ai failli quitter le studio d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on en est le gardien, parce qu'en fait, la Pléiade, ça a l'air d'être comme ça, très précieux, c'est vrai, doré, fil d'or. Mais quand on part en voyage, par exemple, c'est tellement compact. Il y a tout, en fait. Vous prenez Huysmans, vous avez tout Huysmans dans un petit objet. C'est absolument génial. Ouais. Et on en est le gardien, et c'est vrai que ça se transmet bien.
Je vois que Nicolas Caro boit du petit lait. Non, ça sent bon bien, les points pour une aimé. Fois. Beaucoup plus accessible que Huysmans. Bougrement divertissant. Son dernier ouvrage, La Minute Antique, ou ce que les mythes grecs et romains ont à nous dire de l'actualité. Christophe Onodibio, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre avec Anne Le Gall, mais spécialiste environnement, on partage une même passion, celle de la nature. Et la nature avec un grand M. La nature et tous ses enfants, beaux ou laids, lisses ou gluants. Car beaucoup de bobos ont tendance à ne retenir du monde animal que les espèces ayant des vertus décoratives. Or, moi, j'aime tous les animaux. Enfin, presque.
C'est pour ça que si jamais vous trouvez une chauve-souris blessée, prenez quand même des gants pour...
Ah bah ça, t'inquiète, ouais. Une pelle, ouais. Aujourd'hui, Anne... Oui, bah j'aime tous les animaux, ou presque. Aujourd'hui, Anne nous parle d'autres petites bêtes que j'adore, les vers de terre, qui visiblement, eux, aiment la France. Anne vous explique en mieux, justement, James Blunt, Cold sur Europe 1. Cold, c'était James Blunt sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures éclectiques à la frontière du journalisme et de l'humour, en compagnie d'un invité toujours surpris par le niveau de l'émission, comme Patrice Lecomte hier.
Bon,
m'avait dit que j'allais faire une émission top.
Ah non, ça c'est vrai.
Merde.
Aujourd'hui, c'est Christophe Onodibio qui va en prendre plein la vue grâce à l'érudition épatante de nos journalistes. Christophe Onodibio, vous publiez demain aux éditions de l'Observatoire La Minute Antique, notre actu, notre monde à l'aune des mythes grecs et romains. C'est drôle, c'est instructif. Et en plus, ça peut nous aider, dites-vous, à sortir de nos petites querelles à courte vue.
Oui, bah, dit comme ça, alors j'ai du mal à enchaîner. À courte vue. Oui, à courte vue. Oui, oui, oui. Non, c'est-à-dire que
vous parlez
parfois,
de nos petits débats.
Vous voyez, voilà, tout à l'heure, on parlait de la Pléiade et Nicolas nous parlait de ces dorés à la feuille d'or. Ça, il y avait un côté très, très docte, très monumental, etc. Et en fait, on a bien compris avec sa chronique qu'on rentrait là facilement. On rentrait dans un univers, on pouvait offrir ça aux enfants, c'est tout à fait plaisant. Mmh. Bah, c'est un peu ça l'Antiquité. L'Antiquité, on imagine de vieux messieurs barbus avec des toges très austères.
Ah oui, moi j'imagine comme ça.
Voilà. On a le côté péplum avec les gladiateurs, etc. Et en fait, quand on se penche sur ce monde-là, on s'aperçoit que c'est un monde où on rit énormément beaucoup, où en fait, en gros, on passe son temps, quand on est évidemment dans une certaine... quand on n'est pas esclave, parce que tout n'est pas rose dans le monde antique, à disserter, à banqueter autour de notions diverses, à jouir aussi de la vie et à se poser plein de questions sur l'écologie, sur le loisir, par exemple. J'écoutais François Ruffin, l'un des leaders, l'ami de Jean-Luc Mélenchon, qui disait, donc il fait des vidéos dans sa cuisine, hein, vous savez, voilà, qui sont très, très bien faites. Et François Ruffin était en train de relire Spartacus, donc a donné ce film, mais qui est d'abord un roman, d'ailleurs écrit par un auteur américain communiste, en fait, qui a subi le macartisme. Et en fait, il disait, voilà, bah, je trouve, moi, je lis Spartacus et je m'aperçois, je ne suis pas du tout un spécialiste, et je m'aperçois que quand on était homme politique, à l'époque, on avait 6 mois de vacances, et qu'en fait, si je proposais ça aujourd'hui, je me ferais incendier parce qu'on dirait, ils foutent rien, les politiques, etc. Mais en fait, non, j'ai compris en lisant Spartacus que bah, c'est formidable, parce que pendant ces 6 mois de vacances, au fond, on a le temps de se plonger dans les textes, de réfléchir vraiment et de pas dire n'importe quoi quand on est à l'Assemblée nationale. Et ça, en fait, il était en train de faire une référence à ce que les Romains appelaient l'otium. Vous connaissez le mot négoce,
oui.
Le négoce, c'est le commerce. Neg otium, c'est le contraire de l'otium. L'otium, c'est le loisir. Mais c'est pas le loisir n'importe comment. C'est le loisir, l'homme politique, à un moment, rentre dans sa maison et se met à écrire, à lire, parce qu'il a besoin de s'enrichir aussi pour porter la parole publique. Et avec des notions extrêmement qui feront du bien à tout le monde, en disant que quand on prend soin de soi, on donne du bien aux autres. Et donc, pour les Romains, l'homme politique devait être capable, à un moment, de sortir du monde et de se plonger, de travailler, de s'enrichir. Donc tout ça fait que c'est un monde extrêmement plaisant, extrêmement drôle, extrêmement ironique, et que je me suis dit, mais c'est formidable de regarder, pour répondre un peu longuement à votre question sur la courte vue, de prendre de la distance, parce que parfois on voit mieux l'actualité quand on la regarde de très loin.
Moi, ça me donne envie, avec Eva, de prendre un peu d'otium.
Ah oui,
pour,
voilà.
Vive l'otium. À Noël, je vais prendre peut-être 2-3 semaines d'otium.
Et otium a donné le mot oisif. Ah, oui, otiosus, oisif.
Et pourtant, c'est un contresens.
Bah, c'est un contresens. Voilà, l'oisiveté, c'est ne rien faire. Bah, cette oisiveté à la romaine, c'est au contraire prendre du temps pour soi, pour être mieux, pour être curieux, et pour après... enrichir la vie de la cité avec tout ça.
Vous avez raison, otium.
Voilà. Oui, de toute façon, l'invité
otium
a toujours raison.
Ouais, ouais. C'est la devise de votre émission, otium pour tous.
Son dernier livre, ouais. La Minute Antique, sort demain aux éditions de l'Observatoire. Christophe Onodibio est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, son quotidien de spécialiste environnement est un combat. Dans la rédaction, Anne Le Gall doit souvent essuyer le scepticisme de ses collègues, notamment lorsqu'elle traverse le service éco en distribuant des tracts en faveur de l'énergie solaire.
2% de l'électricité produite qui vient du soleil, seulement.
Oui, mais le gros problème du soleil, c'est quand il n'y a pas de soleil, comment on fait ?
Des réflexions frappées au coin du bon sens qui, cela dit, ne la découragent pas. Aujourd'hui, une bonne nouvelle, on savait que la France était championne du monde de foot, et bien visiblement, on est aussi champion du monde de ver de terre.
C'est ça. Je ne sais pas pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça.
Eh bien, Anne va nous expliquer.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue. 2 heures d'un tango fou entre le journalisme le plus rigoureux et le divertissement le plus grivois. L'équation est simple, 4 journalistes en compétition, une seule couronne de meilleur chroniqueur du jour, un concept fort porté par des professionnels à l'éloquence incomparable. À mon avis, Eva, cette émission connaîtra...
un succès fondamental. Phénoménal. Phénoménal.
Oui, c'est aussi ça que doit être en train de se dire notre invité, Christophe Onodibio, avec nous cet après-midi pour la sortie de son dernier livre, La Minute Antique. On continue d'en parler, mais vous le savez, Christophe, la compétition n'attend pas et je sens Anne Le Gall pressée d'en découdre. Anne, jadis timorée, qui, comme on dit en tennis, hésitait à monter au filet. C'est fini ça, c'est fini. Désormais, elle sait que pour s'imposer dans l'équipée sauvage, il ne suffit pas d'être bon, il faut encore que l'autre soit mauvais. Quand c'est le cas, il convient donc de le souligner au Stabilo Rose Fluo.
Non, je ne l'ai pas vu, mais on en a pas mal beaucoup parlé.
Et... on en a pas mal beaucoup parlé.
Vous avez changé, Anne.
C'est vrai ?
Oui, à mon contact, vous devenez détestable. Vous nous parlez aujourd'hui du succès des vers de terre français. Sinon, vous voyez toujours votre psy, ça se passe bien.
Non, mais je vous sens moqueur, mais c'est un événement, figurez-vous, cet atlas mondial des vers de terre. Regardez, ça fait la une du magazine américain Science, ceux qui nous suivent sur Europe1.fr. Donc, on voit en une donc un amas de lombrics marrons et luisants avec ce titre « Worms of the World », vers de terre du monde. Parce que oui, on sait à peu près où se trouvent dans le monde les oiseaux, les mammifères, les poissons. On sait à peu près dans quelles zones ils sont menacés, mais on ne savait rien sur les communautés de vers de terre. Du coup, il y a 3 ans, une équipe de chercheurs de l'université de Leipzig en Allemagne s'est mise en tête d'établir une carte de ces populations de lombrics qui vivent 50 cm sous nos pieds. Ces chercheurs allemands ont donc demandé aux 140 meilleurs experts mondiaux du lombric de leur envoyer, donc experts mondiaux
c'est
du lombric.
C'est vrai que sur leur carte de visite, ils ont experts du lombric.
Ouais, alors géodrilologue pour être
géodrilologue.
Précis. Ouais, il y a des experts du lombric, voilà. Et ils ont donc été invités à faire des prélèvements pour compter les vers autour de chez eux. Ils ont compilé tout ça et ça donne donc en 3 ans de travail une cartographie mondiale de la présence de ces invertébrés dans nos sols. On apprend donc qu'il y a 6000 espèces différentes de vers de terre dans 57 pays du monde, qui sont loin d'être également répartis sur la planète. Le paradis des vers de terre, effectivement, c'est donc chez nous, en France.
Et pourquoi donc ?
Eh oui, au Royaume-Uni, en Italie, en Nouvelle-Zélande et dans la Pampa argentine. Pourquoi ? Ce sont des zones tempérées où il ne fait pas trop chaud. On peut trouver dans ces zones jusqu'à 150 vers de terre par mètre carré.
Surtout près des cimetières.
Oh non.
C'est ça ? Ah non, mais je crois.
Je sais pas si c'est le son des lombrics.
Plus intéressant pour eux.
Dans une prairie, la biomasse des vers de terre, ça équivaut au poids de 2 à 6 vaches. C'est vous dire combien ils sont nombreux. En fait, il y a aussi en poids 20 fois plus de poids de vers de terre dans le monde que de poids d'humains.
Mais non.
Et si.
Mais là, franchement, à quoi ça sert d'avoir une carte de la présence des vers de terre dans le monde, Anne Le Gall ?
Eh bien voilà, justement, ça sert à les protéger parce que ces chercheurs ont découvert...
Ils sont en danger ?
Déjà que les lombrics... Oui, ils sont en danger. Déjà, il y en a beaucoup moins qu'on pensait dans les zones tropicales parce que le réchauffement climatique et la montée des températures est une réelle menace pour eux et on la sous-estimait, cette menace. D'autres études ont montré aussi que dans les zones d'agriculture intensive, la biodiversité des sols agricoles a baissé d'un tiers en 50 ans.
Oui, mais ils servent à quelque chose, les vers de terre ?
Eh bien oui, ce sont vraiment les héros méconnus de notre écosystème. En creusant le sol, ils aèrent la terre, donc ça permet de l'oxygéner, ça permet de mieux faire passer la diffusion de l'eau de pluie. Ils avalent des débris organiques, ces vers de terre, et donc ils fournissent des éléments nutritifs aux plantes. Les plantes, donc, qui nous oxygènent, ça permet la croissance des cultures qui apportent de la nourriture dans nos assiettes. On dit qu'en moyenne, un champ passe dans le tube digestif d'un vers de terre, de l'ensemble des vers de terre, en 50 ans. C'est énorme, c'est un rôle essentiel. Donc, comme le dit le co-auteur de cette étude...
Ça, c'est pas le slogan de Patek Philippe. Hein, je tiens à préciser, là, on est dans autre chose avec vous, Anne Le Gall. Hein,
et je voudrais citer... Je voudrais citer vraiment le co-auteur de cette étude qui s'appelle Nico Eisenhower. Il dit « Les vers de terre n'ont peut-être pas le charisme d'un panda. Effectivement, ce ne sont pas les premiers êtres vivants qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de porter en effigie sur un t-shirt ou sur un poster. Mais leur rôle est tellement crucial qu'il faut en parler, leur donner de la visibilité. Donc c'est le rôle rempli par cet atlas et par cette chronique. »
Anne Le Gall, les vers de terre, les lombrics vous disent merci. S'ils pouvaient parler avec leur petite bouche, même pas qu'ils ont une bouche, ils vous diraient certainement merci. Christophe Onodibio, je crois que vous êtes très attentif aux questions d'écologie.
De lombrics, oui.
Ah, lombrics peut-être pas. Oui, oui. Vous avez l'air déjà de connaître ce sujet, de savoir que les lombrics étaient en danger, ce n'était pas mon cas.
Oui, parce qu'il y a même un ver chinois énorme qui est apparu aussi avec le fait que les gens voyagent en avion, etc. Et qui est une sorte de super prédateur.
Absolument.
De lombrics, c'est ça ? Je parle sous votre contrôle.
En fait, parmi les menaces sur les vers de terre, il y a aussi des gros vers plats qui sont effectivement des prédateurs de nos petits vers qui rendent service à nos sols. Oui.
Voilà. Que de références.
Voilà.
Christophe Audodidier, mot d'un de vos romans, un de vos romans que j'ai adoré, un des plus célèbres qui vous a valu le grand prix du roman de l'Académie française, Plongée. Oui. Vous êtes vous-même plongeur et vous êtes vous-même un grand défenseur des écosystèmes marins.
Oui, tout à fait, et notamment du requin.
Du requin.
Voilà, le requin qui est un super prédateur aussi, mais qui n'est pas comme le ver plat un nuisible, qui sert à réguler toute la chaîne alimentaire. Et le requin, aujourd'hui, 100 millions de requins par an, 100 millions, sont tués pour leurs ailerons, notamment, puisque vous savez que c'est censé avoir des pouvoirs aphrodisiaques. Ah oui. Et qu'en fait, le requin paye, n'en finit pas de payer à la fois le tribut d'une légende, donc, qui donnerait à son aileron des pouvoirs aphrodisiaques, mais aussi les dents de la mer, en fait, grâce à Spielberg. C'est-à-dire qu'on en a vu un tueur de. Alors qu'il y a plus de morts par éléphant que par requin. Au fond, quand on met justement, vous parliez de biomasse, etc., quand on met à plat justement les morts accidentelles par des animaux, l'éléphant tue plus que le requin. Et c'est vrai que je suis fasciné par ça. C'est pour ça que je parlais d'un voleur d'amphores tout à l'heure, au fond. Et la graisse, c'est aussi ça. C'est aussi l'eau, c'est aussi la plongée. Et d'ailleurs, c'est vrai que le premier plongeur était une plongeuse.
Nausicaa.
Voilà. Non, elle s'appelait Idna, en fait, et c'était les premiers commandos de marine avec son père. Oui. Elle était engagée du côté des Grecs pour se battre contre les Perses, pardon. Je dirais contre la presse, non ? Contre les Perses, contre la mauvaise. Voilà. Et en fait, elle plongeait, elle coupait les câbles qui retenaient les bateaux, et quand la tempête commençait, les bateaux se fracassaient. Voilà. C'était un père et sa fille, c'était les premiers commandos de marine de l'histoire.
D'une question sur les requins, il est passé à son livre, il est incroyable. Christophe Audodidier, notre invité cet après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, c'est la confrontation asymétrique de deux cerveaux que tout sépare. D'un côté, Christophe Audodidier, agrégé de lettres modernes et lauréat 2007 du prix Interallié. De l'autre, Eva Rock, agrégé S. Morito de la Polytechnic School of Jean Lépin. Qui remportera le quiz ?
Ouais, je crois que c'est vite vu.
Non, Nicolas, ne soyez pas comme ça, on ne sait jamais. Hein. Christophe peut avoir une absence.
Très mauvais en quiz.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la rigueur journalistique d'Envoyé Spécial, l'adrénaline d'Interville. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 défilent au micro, vous votez pour votre sujet préféré. Et à la fin, c'est notre invité d'honneur qui tranche, parfois sévèrement, comme PEF.
Ouais, Emmanuel Duteil, on va lui mettre un petit 3, il va pas nous faire chier. Hein.
Aujourd'hui, c'est l'écrivain et journaliste Christophe Audodidier qui nous accompagne à l'occasion de la sortie d'un livre qui entre pile poil dans notre cahier des charges, S'instruire en s'amusant, qui s'intitule « La minute antique » ou « Quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque ». Quel est le premier mythe qui vous a fasciné ? Parce qu'on a compris que vous étiez un amoureux de la Grèce antique. Quand vous étiez enfant, probablement.
Le premier mythe, je dirais que c'est Persée et la Gorgone. C'est-à-dire ce jeune homme qui sort à peine de des jupes de sa maman, sauf que je cherchais la jupe dans l'Antiquité, non, pas vraiment jupe. Et qui s'en va tuer cette gorgone. En fait, ce qui m'avait fasciné, c'est que vous savez que quand on regarde la gorgone, elle vous pétrifie. Donc il arrive à la tuer. Mais surtout, ce qui m'avait le plus plu, c'est que quand il repart avec la tête de la gorgone qui goûte de sang, le sang tombe dans la mer et c'est ça qui donne le corail, puisque ça se pétrifie. Et là, on retrouve le plongeur. Non, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Mais il y en a plein. Je pense que vraiment le plus fondateur, comme pour tous les enfants, c'est l'Odyssée, d'ailleurs, avant l'Iliade. C'est-à-dire cette histoire d'un homme qui veut rentrer chez lui et qui n'y arrive pas. Alors, depuis que j'ai grandi, j'ai relu l'Odyssée et je découvre qu'en fait, Ulysse n'est pas du tout ce type qui veut retourner vers sa femme. Il passe quand même 7 ans chez une autre femme.
C'est vrai.
Alors, c'est vrai qu'elle s'appelle Calypso, qu'elle est sublime, qu'elle lui offre l'immortalité. 1 an chez Circé, la magicienne, dans le lit de Circé.
Ça
et c'est dit dans le texte qu'ils font l'amour, etc. Alors, on ne nous donne jamais ces passages-là à lire, évidemment.
Oui, il y a jamais de détails croustillants, malheureusement.
Et c'est ça aussi. En fait, c'est un monde, le monde antique, qui n'est pas du tout prude.
Ah non.
Qui n'est pas du tout prude. Où on
parle c'est avant le monde judéo-chrétien.
Exactement. De sexualité tout le temps, de liberté tout le temps, où la religion n'est pas un problème. En fait, toutes les religions sont absorbées.
Sont acceptées,
Une ville comme Palmyre, par exemple, qui était une ville, bon, gréco-latine, hein, finalement. Aujourd'hui, lui en Syrie, c'est drôle quand on voit le changement, accueillait tous les cultes. C'est-à-dire l'Occident, l'Orient, tout ça se mariait. Il faisait des unions de dieux. Baal, le dieu oriental, bah, il disait en fait, c'est un peu comme notre Jupiter, donc on va l'appeler Jupiter-Baal, et c'est très bien comme ça. Et jamais on a tué au nom de la religion. Il y avait des conflits, mais jamais il y avait des guerres. Mais en tout cas, sur le plan de la religion, il n'y avait pas de guerre de religion. Et en fait, on croyait à ce qu'on voulait. Ça posait absolument aucun problème.
Nous passons un merveilleux moment avec Christophe Onodibio. Alors à ce stade, Eva Rock, vous dites peut-être que j'ai oublié le quiz. Pas du tout.
Ah merde.
Effectivement, ouais. Christophe Onodibio, tous les jours un quiz thématisé. On pose notre invité à Eva. Le sujet du jour sera la Grèce. Mythologique ou pas, d'ailleurs, c'est un vrai faux. Une bonne réponse vaut un point. Christophe Onodibio. Un zytologue est un spécialiste de la décomposition. Zytos signifiant détritus. Vrai ou faux?
Ne me regardez pas parce que
vous savez
je
pas
sais pas
réponse.
Déjà mes réponses à moi, alors
non, c'est zytologue, je sais pas. Non.
Et c'est bah, donnez une réponse.
Bah faux.
Ouais.
Faux. Ah, Zytos. Ouais. Il est vraiment fort, il est vraiment spécialiste de la Grèce antique. Voilà. Zytos en grec c'est l'orge. Le zytologue est à la bière ce qu'un œnologue est au vin. Spécialiste de la bière.
Ah, mais ça j'aurais dû le savoir. Pourquoi
ah oui, ça pourtant c'était plutôt votre domaine c'est de compétence. Eva. Nana Mouskouri.
Ah non.
Le rapport avec la Grèce est fin. Finement pensé ce quiz. Et Nana Mouskouri a chanté du Amy Winehouse. Vrai ou faux?
Ah, je crois que c'est vrai. Non, je crois que c'est vrai.
Réfléchissez bien en termes de temporalité. Oui,
ouais,
c'est vrai.
Je crois que c'est vrai.
Oui, c'est vrai. J'ai
Et Nana, vous savez qu'elle s'appelle Nana, c'est le diminutif d'Athéna. En fait, on devrait dire Athéna Mouskouri.
Mouskouri.
Oui,
ah,
exactement.
Ça, c'est plus joli.
En fait, quand
ouais.
vous allez en Grèce aujourd'hui, les filles s'appellent Déméter, donc ça vient d'Imi. D'Imi, c'est Déméter.
D'Imi, d'accord.
Alors, Zeus, non. Mais
et Demis Roussos.
Dita. Aphrodite,
Dita, ah
voilà,
ouais,
Dita Fontis, ouais. Aphrodite Fontis, ça lui va bien.
Ça lui va parfaitement.
Hein. Et Nana, c'est le diminutif d'Athéna.
Eh ben, si voilà. je la reçois, je voilà. l'appellerai Athéna.
Mais c'est bien,
elle m'a permis
plaisir,
de gagner un point.
Et elle vous a permis de gagner un point, car elle a effectivement repris Love is a Losing Game.
A five-story fire as you came.
Non mais, on se moque, mais elle a une très très belle voix.
Ah ouais.
Mais oui, mais je ne me moque pas, Eva. Il n'y a que vous qui vous moquez.
Si,
c'est
je...
pas du tout mon fond de commerce, Eva,
oui,
de moquer
vrai,
les gens. C'était en 2018, elle a aussi repris du Bryan Adams, Hey Jude des Beatles et aussi du Dalida, sacré Athéna. Eva Rock, Christophe Onodibio, vous jouez ensemble. En 1911, le Britannique George Levick part en expédition en Antarctique. À son retour, personne ne comprend pourquoi il a rédigé toutes ses notes en grec. Pourquoi, d'après vous? 1. Il est parti avec son amant grec, également scientifique, mais ne voulait pas que ça se sache. 2. Ça. Horrifié par la sexualité des manchots, il se dit que ses travaux resteront confidentiels s'il les écrit en grec. Ou 3, victime d'un choc avec un canot de sauvetage, il n'arrivait plus à rédiger en anglais, mais que en grec.
Ah, moi, je j'aimerais que ça soit la 3.
Mais oui, c'est la 3, mais je crois que c'est ça en plus.
Parce qu'elle est tellement plus romanesque.
Mais parce que ça s'explique...
Attendez, quelle est la 3 pour vous?
Il a pris un canot de sauvetage sur la tête et il s'est mis à parler en grec.
Vous pensez que c'est ça?
Oui.
Et bien moi, j'aurais répondu la 3 aussi, parce que c'est quelque part quelque chose de logique. Et les autres paraissent inventés par un homme fou qui prépare des quiz.
Oui.
Eh bien non, la réponse c'était la 2.
Mais non.
En effet, il a pu observer des manchots pratiquant des actes homosexuels, mais aussi pédophiles, nécrophiles et des viols. Il fut si choqué qu'il décida de tout rédiger en grec, et ça a marché, car ses travaux n'ont été traduits et rendus publics que 50 ans plus tard. Ah, ça vous fait
rêver sur les manchots. Anne, c'est formidable.
Anne, vous enquêterez sur les manchots. Apparemment, c'est des sacrés salopios.
Hyper étonné.
Eva Rock, Ploutos, dieu de l'abondance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est une femme. Vrai ou faux?
Non, jurez non.
Mais... vous êtes touché par la grâce aujourd'hui. Faux, il est le fils de Déméter, la déesse de l'agriculture. Par contre, un autre dieu est un homme alors qu'on pense souvent que c'est une femme.
Quand un dieu est un homme alors qu'on pense que c'est une
Morphée
femme.
Oui, voilà Morphée.
Mais du coup, dans les bras de Morphée.
Mais qu'est-ce qui lui arrive?
Mais c'était facile, vous dites...
Montrez-moi vos fiches. Est-ce que vous n'avez pas les résultats du quiz sur une feuille?
Ploutos, le dieu de l'abandon, en grec, qui veut dire le riche, qui est donc le dieu des enfers, Pluton. Pourquoi Pluton l'appelle le riche? Pourquoi il est riche?
Ah, aucune idée. Pluton.
Parce qu'en fait, il y a toujours des morts, etc. Donc ça enrichit son capital en permanence. C'est le dieu, c'est le plus riche des dieux, Ploutos.
Il fallait y penser.
Pluton. Voilà.
C'était le petit plus de Christophe Onodibio.
C'est marrant tout ça, c'est amusant, on voit les choses autrement. Voilà, on pense à la mort, mais différemment.
Tout à fait.
Voilà.
Christophe Onodibio, justement. On connaît tous le logo de Nike. Mm-hmm. Eh bien, Nike est une déesse grecque, celle de la victoire. Vrai ou faux? C'est un peu la question la plus dure, je pense.
C'est très compliqué, ça.
Oui, la réponse est vraie, c'était trop facile pour Christophe Onodibio. D'ailleurs, le logo est censé représenter une aile de Nike.
Exactement.
Il a été créé par une étudiante, elle l'a vendu en 1971 pour $35. 10 ans plus tard, pour se rattraper, Nike lui a offert une bague en diamant avec la forme du logo.
Ouais. Et Athéna Nike, qui est le nom donc Athéna victorieuse en fait, ouais. Était enfermée dans son les Athéniens l'ont gardée dans son temple parce que pour que la victoire ne quitte jamais la ville. Voilà, Athéna Nike. Donc en fait, oui, c'est assez contre-intuitif parce que j'entendais l'autre jour un joueur de tennis qui disait je me suis fait hein. Et en fait, il avait perdu.
La minute antique, des chapitres qui se lisent en une minute pour étoffer votre culture G et mieux comprendre l'actu à travers les mythes de l'Antiquité. C'est le concept de son nouveau livre à paraître demain aux éditions de l'Observatoire. Christophe Onodibio est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, en cuisine, les épices sont souvent la clé pour donner du relief à un plat, mais attention à ne pas en abuser. Je n'ai jamais osé vous le dire, Eva, mais Nicolas confirmera, il faut lever le pied sur les épices dans vos plats. Hein.
À chaque fois qu'on venait dîner chez vous, j'étais obligé de prendre des suppositoires pour dormir en rentrant.
Et de toutes les épices, la plus chère se récolte actuellement, il s'agit du safran. Et pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour en trouver. La fleur qui donne du safran est cultivée chez nous, dans le sud de la France. Notre envoyé spécial à Marseille nous raconte, juste après une chanson de saison. Octobre, Francis Cabrel sur Europe. Octobre, c'était Francis Cabrel sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Christophe Onodibio nous accompagne cet après-midi pour la sortie demain de son livre La Minute Antique. Vous écoutez L'équipe est sauvage, 2 heures pour étoffer votre culture G, vous dégourdir les zygomatiques et glaner de bons plans près de chez vous en région. Or justement, une idée futée cet après-midi dans le sud de la France. Soucieux d'être toujours au plus près des Français et de leurs problèmes de pouvoir d'achat, Europe 1 a décidé aujourd'hui de vous parler du safran, l'épice la plus chère du monde. Nicolas, votre réaction ?
C'est un peu complètement con.
Non, dans notre jargon journalistique, on préfère parler de contre-pied éditorial audacieux. Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous embarquez cet après-midi dans une zone naturelle protégée dans les collines de Pagnol, le massif du Carlaban, pour une cueillette particulière.
Le safran est en pleine floraison en ce moment dans le sud, alors ça aurait été dommage de s'en priver. Alors c'est vrai que la cueillette a pris un petit peu de retard en raison des dernières intempéries, mais la fleur de safran, Mathieu, elle est magnifique, elle sent bon avec ses pétales mauves délicats et en son cœur le pistil avec ses stigmates, les longs filaments rouges, et c'est ça qui vaut de l'or. Alors à votre avis, Mathieu, combien coûte vaut un gramme de safran ?
J'en ai aucune idée. Plus cher que le caviar ? Je sais pas.
Ah oui, c'est plus cher.
Ah oui, c'est plus cher. Ah oui. C'est ce qu'il y a de plus cher. Un gramme de safran, ça peut valoir 10 euros.
Non. Eh ben non, c'est 30 euros. Non. 30 euros pour un gramme seulement. Ce qui fait pour un kilo, 30 000 euros.
Oui, j'allais vous le dire.
Ça marche là. Jusque-là, ça marche.
C'était tellement facile.
Alors, 30 000 euros, vous allez me dire qu'à ce tarif-là, bah, les exploitations doivent être archi protégées.
Oui, bah, il doit y avoir des grandes barrières, des miradors, etc. Non
eh bien, pas du tout. Parce qu'ici,
on craint donnez-moi
davantage.
L'adresse alors, je vais partir en week-end.
Bon, en fait, ici, on craint davantage les sangliers et les lapins plutôt que les voleurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fleur en elle-même, bah, ça vaut rien. Imaginez, il faut 200 fleurs pour faire un gramme. Et donc, beaucoup de patience pour les cueillir. C'est ce que m'a expliqué Cécile Secaldi, safranière bio à Roquevert, sur son exploitation tout en restanque.
Alors moi, je produis à peu près 200-300 grammes de safran par an. Ça représente aux alentours de 50 à 60 000 fleurs de récolte annuelle. Donc, c'est 60 000 fleurs, une par une, les cueillir, les trier. Donc, effectivement, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et le prix du safran, on dit souvent que c'est très cher, mais le prix du safran, c'est le prix de la main-d'œuvre en réalité. C'est très précis, surtout quand on trie les fleurs. Comme vous voyez, là, j'ai une fleur dans la main. Si je veux sortir uniquement les stigmates, je dois couper exactement au bon endroit et il faut aller vite parce que quand on a beaucoup de fleurs à trier, souvent on finit à 3-4 heures du matin. Il faut que ce soit bien fait, vite fait et de manière très précise.
Alors Nathalie, on connaît le safran dans la paella ou pour la bouillabaisse, mais il y a aussi des produits dérivés et d'autres vertus que le goût.
Effectivement. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà goûté au sirop de safran ?
Pas du tout. Non, pas du tout.
C'est à boire comme une grenadine ou en cocktail façon kir. On peut aussi faire de la confiture de safran. Mais l'épice importée d'Asie au XIIe siècle a aussi d'autres secrets. Écoutez.
Alors, c'est très riche en vitamines, en caroténoïdes. Surtout, ça a des vertus médicinales qui sont assez importantes. C'est l'épice de la joie et de la bonne humeur. Un anti-stress, un calmant, un apaisant. C'est mieux ça que de prendre des médicaments.
Et les pétales, vous en faites quoi ?
Alors les pétales, ils sont séchés également, ils sont conservés. C'est un laboratoire qui nous les rachète pour faire un extrait et c'est utilisé ensuite en cosmétique.
Voilà, la crème hydratante aux pétales de safran. Ça, j'ai pas encore testé. Ce sera peut-être pour une prochaine chronique. En attendant, vous avez compris, le safran, c'est à consommer sans modération et sans trop se ruiner au final. Parce qu'il faut 0,1 g pour épicer un plat. Cela représente à peu près 4 euros. Et surtout, alors n'achetez pas votre safran en poudre en grande surface. Non. Préférez les stigmates entiers que vous trouverez dans les épiceries fines sur les marchés. Car il y a de plus en plus de safraniers en France. Et oui, c'est une épice
tendance.
Ça marche, Nathalie Surance, mais maintenant que je sais que les champs de safran ne sont pas protégés, vous allez quand même me redonner l'adresse
exacte. Je vais vous voir galoper dans les collines du Garlaban, c'est
galoper,
ça.
Je ne sais pas, mais je vais aller remplir le Kangoo, en tout cas, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Nathalie Surance.
À bientôt.
Europe 1.
L'Équipée Sauvage continue avec Christophe Onodibio qui publie demain aux éditions de l'Observatoire un livre ludique et instructif qui nous a beaucoup amusé, La Minute Antique ou quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque. On continue d'en parler, mais on va également accueillir deux nouveaux journalistes en compétition. On vous dévoilera notamment les secrets de la Transat Jacques Vabre qui vient de s'élancer. On se dépêche car à ce stade de l'émission, l'invité a souvent hâte de rencontrer les nouveaux journalistes. Bon, sauf évidemment quand les nouveaux journalistes ont des pépins gastriques comme Mathieu Charrier hier face à ce pauvre Patrice Lecomte.
Ma fille a eu une gastro toute la semaine dernière.
Ah putain, j'ai serré la main ce mec-là.
Tout va bien, Christophe. Au cas où, on a du gel hydroalcoolique. À tout de suite.
16h, 18h, L'Équipée Sauvage sur Europe 1. L'Équipée Sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, vous êtes au cœur de L'Équipée Sauvage. Deux heures d'un combat épique entre les plus belles plumes de la rédaction qui s'étripent au service de votre culture G, sous l'œil d'un invité souvent émerveillé, jusqu'à ce qu'Eva décide de justifier son salaire qatari en lui posant une question à rallonge et absolument sans queue ni tête. Alors, personnellement, la pratiquant c'est depuis moche, bientôt 8 ans, je suis familier de ces mini AVC qui laissent augurer d'un troisième âge laborieux. Mais hier, je dois avouer que même moi, j'étais stupéfait par la construction grammaticale de cette question que vous allez entendre. Alors, imaginez Patrice Lecomte.
Est-ce que vous avez eu des facilités ou en tout cas des possibilités de financement de tous vos films avec aussi... Toujours pareil, vous aviez ces financements-là ou ça a été plus compliqué?
Dans mes bras, ma championne. Et le pire, c'est qu'il a répondu.
Oui,
il a compris regardé. Ce que vous vouliez dire. Non, Christophe Onodibio, rasseyez-vous, restez avec nous. De nouveaux journalistes en compétition arrivent. Mais tiens donc, Eva... C'est qu'il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, L'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, L'Équipée Sauvage se poursuit dans cette atmosphère très particulière, à la fois festive et moite, que l'on pourrait donc qualifier de festi-moite. Deux heures d'une impitoyable joute éditoriale entre les journalistes d'Europe 1 les plus affûtés, sous l'œil d'un invité arbitre généralement très attentif à ce qui se dit, en tout cas plus qu'Eva Rock, qui est toujours en train de consulter ses alertes Tinder. Eva !
Le petit coiffeur de 95 ans, là. Oh là là.
Non mais Eva, je vous ai dit de mettre le mode avion. Bref, Christophe Onodibio nous accompagne aujourd'hui à l'occasion de la parution demain de son dernier livre, La Minute Antique, ou ce que les Grecs et les Romains ont à nous apprendre de notre époque. La religion est un thème d'actualité. Un des chapitres de votre livre est intitulé « Le paganisme est-il un humanisme ?» Vous expliquez que la démocratie athénienne est loin d'être parfaite, mais jamais on n'y aura tué quelqu'un au nom de Dieu. Ça, c'est un point important qui nous éclaire bien sur notre époque.
Effectivement, tout n'est pas rose dans la démocratie athénienne. Je parlais tout à l'heure de l'esclavage.
Il faudrait parler aussi
de la place des femmes aussi. Où il y a beaucoup à redire. Mais sur la religion, ils sont exemplaires. Et d'ailleurs, j'ai écrit, parce que ce petit livre est une suite, ça s'appelle La Minute Antique, en fait, Les Minutes Antiques, des petits moments de 2-3 pages pour comprendre où je reviens sur l'actualité. Et en fait, j'avais écrit cette Minute Antique, là, après les massacres au Sri Lanka. Donc des islamistes avaient tué un certain nombre de gens dans les églises, dans les hôtels, etc. Et justement, je citais, en fait, il y a eu des moments compliqués, notamment autour des empereurs romains, quand le christianisme est apparu. En fait, les derniers païens se sont dit « Mais pourquoi vous nous obligez à adhérer à cette nouvelle religion ?» Et il y a un personnage qui est fabuleux, qui s'appelle Quintus de Smyrne, qui dit, je ne connais pas de mémoire, mais qui dit « Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas juste calmer le jeu ? Chacun accède au spirituel par la voie qu'il veut, et laissez-nous, et c'est pas important, c'est pas là-dessus qu'il faut se battre. » Et alors, chez les Grecs et les Romains, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand les Romains se déplacent vers l'Orient, en fait, ils incorporent les dieux orientaux. Donc en fait, ils donnent à leur nom de dieu, des noms de dieu, ils accolent le nom oriental du dieu avec le nom gréco-latin du lieu, du dieu. Donc, je le disais tout à l'heure, Jupiter devient Baal-Jupiter. Donc on n'a jamais, c'est pas un sujet la religion. Jamais on appelle à tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que vous. Donc je pense que le paganisme, oui, est un humanisme, et en tout cas peut-être une voie d'avenir. En fait, c'est l'objet de ma présence ici, c'est qu'on soit tous païen, voilà, on s'amusera beaucoup mieux, donc je propose de lancer le renouveau du paganisme, si vous en êtes d'accord, on est cinq, paillon, voilà.
Je vous présente justement deux solides spécimens de païens, voilà. Les deux derniers journalistes en compétition aujourd'hui. À ma gauche, le valeureux, le fougueux Jérôme Lacroix, notre expert sport qui ces derniers temps, entre ici et la matinale, fait de grosses journées qui lui laissent très peu de temps pour voir sa femme. Heureusement, sa devise est la suivante.
Faut savoir être efficace quand on est sur le terrain, peu importe le temps qu'on y passe.
Oui, on embrasse votre épouse. Aujourd'hui, GG,
vous nous emmenez en haute mer.
J'étais hautement philosophique ce jour-là, oui. Bonjour Mathieu, bonjour à tous, oui. Oui, je voulais vous parler ce matin de ceux qui s'appellent eux-mêmes les intermittents de la mer. On adore, on est nombreux à adorer vibrer au rythme de leurs exploits. Ce sont les certains parcours en ce moment. L'océan Atlantique, il participe à la Transat Jacques Vabre. Je vous parle bien sûr des marins professionnels, des skippers. Ils nous fascinent, mais...
Ils sont pas bien payés.
Combien gagnent-ils ?
Ah bah visiblement, vous nous donnez déjà un peu la réponse.
Avec
c'est pas énorme. Avec les intermittents de la mer.
Des temps modernes presque. Hein. On se posera la question.
À ses côtés, son habileté et sa ruse sont telles qu'on le surnomme le renard de Malakoff. Jean-Philippe Ballas a en effet compris quelque chose de très important pour s'imposer dans cette émission. La qualité du sujet ne suffit pas. Il faut surtout réussir à se mettre l'invité dans la poche. Pour ce faire, deux méthodes : lui cirer les pompes ou rire très fort à toutes ses blagues. La méthode Ballas, un subtil mélange des deux.
Il y a des niçois. Vous êtes niçoise ? Ah, vous avez raison.
C'est pas votre faute, on l'entend, mais...
Vous avez raison, j'adore.
Les cirages Ballas, un brillant sans égal. Exigez la qualité Ballas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec quel sujet allez-vous tenter, entre autres, de séduire Christophe Onodibio ?
Arnold Schwarzenegger évacué, des loups affamés, on va parler des incendies qui frappent la Californie en ce moment.
Ouais, et notamment Christophe. Qui menace une des plus belles collections antiques, la Villa Getty.
Absolument.
Voilà, qui est exposée aux flammes.
Le prix du meilleur invité de l'année, peut-être, Christophe qui réussit lui-même des transitions entre les sujets. Quel sujet vous marquera le plus ? Réponse peu avant 18h. En attendant, on continue de parler de ce que la mythologie peut nous apporter dans la compréhension de notre époque. C'est l'axe du nouveau livre de notre invité Christophe Onodibio, La Minute Antique. Mais vous, au fait, vous êtes calé en mythologie ? On vous a tendu le micro dans la rue.
La mythologie grecque.
Ah si, si, on les lit, oui, oui. Quand on est jeune, on les lit, l'Iliade et l'Odyssée, bien sûr, oui.
J'aime bien Athéna. Athéna les baskets, non, la déesse de la guerre, celle qui avait une chouette sur l'épaule.
Ah bah voilà. Si, il y a Anubis, non.
C'est les Égyptiens, ça.
Il a dit grec.
Ah zut.
Romain ou grec.
Il y a Apollon, c'est le dieu de la beauté.
Non. Apollon, c'est le dieu de la mer.
Non, ça c'est Poséidon.
Ah, Poséidon. Moi je dis Zeus, le dieu de Dieu.
Hercule, Astérix.
C'est une grande histoire de fesses sur des conflits financiers, de pouvoir. Enfin, c'est shakespearien, la mythologie.
Vous avez Ulysse, Homer, Esculape.
Athéna, la reine des vérandas.
Athéna, la reine des vérandas. Il y a une notion qui revient dans ce petit micro-trottoir, c'est la notion d'hédonisme, de sexualité. Ouais. Pas forcément débridée, mais en tout cas complètement libre et acceptée sans tabou.
Ouais, bah notamment, on parle beaucoup des transgenres.
Aujourd'hui, oui.
Gender fluidisme.
Oui.
En fait,
on pense
premier...
que c'est très neuf.
On
alors
pense que
pas du
c'est
tout.
Très neuf. Voilà. Et en fait, il s'agit, et l'histoire est super. Tirésias, le grand devin de l'Antiquité, celui qui pouvait voir dans l'avenir, en fait, Tirésias a été et homme et femme. Il a été non-binaire, en fait. Il a été les deux. En fait, Tirésias, un jour, on parlait des lombriques tout à l'heure, voit deux serpents s'accoupler. En fait, il prend son bâton et il essaie de les séparer. Il sépare l'union des serpents. Les dieux, pas contents, lui retirent la vue. Et il va falloir qu'il retourne voir des serpents pour retrouver la vue. Entre-temps, il a été aussi changé par les dieux. D'homme, il est devenu femme. Donc en fait, un jour, les dieux, notamment Zeus et Héra, se disputent pour savoir qui a le plus grand plaisir sexuel. L'homme ou la femme ? Question qu'on se pose beaucoup.
C'est vrai.
Nous, on a la réponse. Hein. Moi, j'ai la réponse.
Vous, vous avez la réponse ?
Ah bah, j'ai la réponse.
Maintenant, moi aussi, j'ai la réponse.
On sait que ce sont les femmes. Voilà. Et les Grecs l'avaient déjà. En fait, ils font venir Tirésias. Puisque tu as été homme et femme,
dis-nous.
Tu vas nous dire qui a eu le plus grand plaisir sexuel. Et en fait, il répond, les femmes, 10 fois plus.
Oh.
Et là, Héra, furieuse certainement qu'il ait révélé le secret, lui ôte la vue à ce moment-là. Et comme Zeus, donc finalement, est assez, peut pas défaire ce qu'un dieu a fait, dire bon bah je peux pas te rendre la vue, mais je vais te donner la vue la plus longue qui soit, c'est-à-dire
la vue du futur.
Donc Tirésias a expérimenté les deux, les deux genres, les deux plaisirs, et donc déjà à l'époque antique, on savait que les femmes avaient 10 fois plus de plaisir que les hommes. Voilà, c'est une nouvelle pour 16h. On y est quelle heure ? À peu près 17h, c'est
oh
très bien.
Oui, on vient de passer 17h et Eva Rock est en train de jouer.
On est en plein 5 à 7.
On est en plein dans le 5 à 7 voilà. Et Eva a hâte de rentrer chez elle, visiblement. La minute antique, quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque, ça sort demain aux éditions de l'Observatoire. Christophe Onodibio, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Jean-Philippe Ballas et Jérôme Lacroix sont à mes côtés. À suivre, on reste dans la thématique de la mythologie grecque, puisque suite à l'échec de son traitement anxiolytique, Jean-Philippe Ballas persiste à croire qu'il est Agamemnon.
Pour cette victoire, j'élèverai des monuments sur chaque île grecque. Oui. Je ferai graver Agamemnon dans la roche.
Oui, mais d'abord, il faudra gagner Agamemnon. Dans un instant, Jean-Philippe Ballas nous décrypte les incendies géants qui frappent actuellement la Californie. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures en compagnie aujourd'hui de Christophe Onodibio pour la sortie de son dernier livre passionnant, La Minute Antique, quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque. Et c'est vrai que finalement, entre la stratégie militaire de Donald Trump et celle de Jules César, si on disposait d'enregistrements audio, on se rendrait compte que c'est kiff-kiff bourricot.
Il faut leur rentrer dedans, Germain. Il faut les défoncer. On va défoncer les Germains!
Comme Jules César en son temps, sa stratégie à lui est claire, écraser tous ses concurrents avec un sujet fort et éventuellement assommer la concurrence avec une question pertinente à l'invité. Jeudi dernier, face à Johan Sfar,
la question
était pertinente certes, mais peut-être un chouïa longue.
À partir de quel moment vous avez senti que, on disait tout à l'heure, il va y avoir des piles de BD partout, ça fait partie maintenant des BD, on les prend sans même réfléchir, c'est le tome 9, on se pose pas la question. À quel moment vous avez senti que votre histoire très personnelle avait une résonance universelle et que Le Chat du Rabbin devenait un classique de la bande dessinée?
Quand on m'a dit que ça se vendait bien.
Jean-Philippe Ballas, avec un lancement pareil, vous êtes parti pour la gloire. À mon avis, vous nous parlez des incendies en Californie aujourd'hui, Jean-Philippe, c'est ça ?
Je vais commencer par une anecdote qui vous donne une idée du désastre qu'il y a dans cette région en ce moment. J'étais là-bas il y a quelques années en reportage, déjà pour des incendies monstres, et j'arrive un matin dans l'une de ces villes évacuées. On en a vu plusieurs ces derniers jours, une ville fantôme donc, il n'y a plus qu'un ou deux shérifs qui patrouillent. Vous imaginez le silence, le ciel totalement voilé, plombé par les incendies. Et là, soudain, près d'une station-service, j'aperçois un animal. Alors au début, je pense que c'est un chien, je m'approche, et là, je réalise qu'il s'agit d'un loup. Un loup qui est à 3-4 mètres de moi, je vous jure, comme ça, au milieu d'une ville. Alors, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, parce que je me suis vite rendu compte que ce loup était littéralement exténué, totalement amaigri, parce que ça faisait des jours sans doute qu'il courait comme ça dans la montagne pour échapper aux flammes. Et c'est ce que m'a dit d'ailleurs à l'époque le shérif, et c'est ce qu'on dit encore plus depuis quelques jours. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle se déplacent ces murs de flammes. Alors, il y a deux raisons aujourd'hui. La sécheresse d'abord, c'est une région vraiment où il ne pleut pas, où il ne pleut plus depuis des années maintenant. Et puis les rafales de vent. On a des rafales jusqu'à 130 km/h et des conditions climatiques maintenant qui s'étale dans le temps, qui dure de plus en plus longtemps au cours de l'année. On a du mal à pas y voir évidemment les conséquences du dérèglement. Alors, je sais qu'il y a Donald Trump, l'année dernière, il a dit que c'était surtout parce que les forêts étaient pas bien entretenues, qu'on balayait pas assez le sol. Alors ça fait beaucoup rire les experts à l'époque, ça les a rendus tout du moins un peu perplexes. Ce qui déclenche maintenant les incendies, forcément on se pose la question, la moindre étincelle, hein, le moindre feu de broussailles. Et puisqu'on parle d'étincelles, il y a les compagnies d'électricité, notamment les lignes électriques qui sont mises en accusation régulièrement là-bas. Et puis alors, c'est pas une consolation, mais on est tous égaux face au désastre aujourd'hui, parce qu'on l'a appris il y a quelques heures, il y a Arnold Schwarzenegger, il y a LeBron James, le basketteur. Ils ont été évacués de leur villa parce que forcément elles sont dans les hauteurs. Il y a aussi la Villa Getty, l'un des plus beaux musées américains. Christophe Onodibio en parlait il y a un instant. Et puis alors moi, ce qui me frappe toujours, c'est la capacité de résilience ou de fatalisme des Américains. Je sais pas, il y a notamment cette photo d'un couple qui a voulu se faire photographier le jour de son mariage absolument devant les vignes. Alors, il y avait l'incendie, mais ils y sont allés quand même. Ils se sont fait photographier devant les flammes avec la robe de mariée et un masque quand même. Oui, un masque pour pas respirer les fumées. Et puis, je me souviens, à l'époque du reportage, c'était la période d'Halloween, hein, comme maintenant. Et ben, vous aviez un grand hangar avec des gens qui avaient tout perdu. Et puis, vous aviez des gamins qui couraient comme ça au milieu des lits de camp. Qui fêtaient Halloween, tout simplement, avec ce qu'ils avaient sous la main. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui aux États-Unis.
Mais rassurez-moi, Arnold va bien. Il est en sécurité dans une autre villa qu'il avait un peu plus loin.
Il a quand même été évacué à 3h30 du matin. C'est pas rien, quand même. Mais il rend hommage aux pompiers, comme tous les Américains, évidemment, aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Votre chronique aura-t-elle séduit notre invité Christophe Onodibio ? Il vous le dira juste avant 18h. Et Jérôme, soyons beaux joueurs, rappelons que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent, si elles le souhaitent, réécouter la chronique de votre adversaire Jean-Philippe en podcast sur Europe1.fr.
Elles le font pas de gaieté de cœur.
Jérôme, c'est pas sympa.
Europe 1.
À suivre, connaissant les préférences des baroques.
Elle préfère l'amour en mer.
Jérôme Lacroix, notre expert sport, a décidé de nous parler aujourd'hui de la Transat Jacques Vabre, qui vient de s'élancer du Havre. À quoi ressemble le quotidien d'un skipper? Combien gagne-t-il vraiment? Quelles sont ses petites astuces pour rendre supportable la traversée, et notamment les bruits du large?
vos gueules, les mouettes.
Les petits secrets des grands marins, c'est juste après U2. Where the streets have no name sur Europe. Where the streets have no name, c'était U2 sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour permettre au DRH d'Europe 1 d'y voir plus clair entre ceux qui bossent et ceux qui tirent au flanc. Chaque après-midi, les journalistes de la rédac défilent au micro pour tenter d'être élus chroniqueurs du jour sous l'œil torve d'Eva Rock qui m'épaule dans l'interview de l'invité. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle fait, elle met toujours dans le mille.
D'ailleurs, tout le monde ne sait pas que vous avez commencé comme dessinateur aussi de bande dessinée. Vous avez notamment collaboré à Pilote. Est-ce que les débuts de vos scénarios sont des storyboards ?
Non. Je déteste l'idée du storyboard. J'ai jamais fait de storyboard et donc je vais pas dessiner les images que j'ai en tête pour après les refaire. Enfin, ce serait absurde.
Mais c'était une bonne question quand même, Eva.
Et la réponse était intelligente.
Dites-moi, Christophe Onodibio, lorsque vous préparez un livre, vous n'avez pas un storyboard des fois avant ?
C'est ça. Non, mais en plus, c'est pas les mêmes images. C'est très bien. C'est pas les mêmes images. Il y a plein de réalisateurs qui font des storyboards.
Vous défendez beaucoup Eva Rock.
Elle n'a pas besoin d'être défendue, elle se défend très bien.
Merci beaucoup Christophe, merci. Voilà.
Pendant le disque qu'on a écouté d'une oreille et de l'autre, oui. nous revenions sur les incendies, ouais. Et vous nous disiez quelque chose d'extrêmement intéressant, comme souvent
d'ailleurs,
Christophe.
When the streets have no name. Oui, je pensais quand vous faisiez votre chronique à un incendie très très fameux, très très célèbre dans l'Antiquité. Vous connaissez les merveilles du monde. L'une des merveilles du monde, c'était le temple de Diane à Éphèse, donc dans l'ancienne Turquie, qui a brûlé mais volontairement. Un type qui voulait devenir célèbre en brûlant cette beauté. Il s'appelait Hérostrate, on a son nom, mais en tout cas, il a été reconstruit. D'ailleurs, toutes les femmes ont donné leurs bijoux, etc., pour reconstituer à l'identique ce temple. Mais la punition pour Hérostrate, c'était que son nom, il était interdit de prononcer son nom. En fait, il devait être châtié par l'oubli. Et ça, c'est une piste, je trouve.
C'est une piste aujourd'hui, par exemple, pour les terroristes, dont on cite souvent le nom.
C'est vrai,
à
beaucoup
tort,
trop.
À mon sens, dans les médias.
Beaucoup trop. Alors qu'on devrait, justement, aussi les châtier par l'oubli, c'est-à-dire comme faisaient les Grecs. Or, ce qui se passe, c'est qu'on mitraille, sans mauvais jeu de mots, mais le nom de ces gens qui ont mitraillé et qui ont tué, et on devrait faire comme on a fait pour Hérostrate. Pas de nom, on ne prononce pas son nom. L'oubli aura raison de lui.
Christophe Onodibio, on parlait des chaînes info. Vous avez le temps encore de regarder un petit peu la télé, les écrans. Vous êtes un client de série, par exemple.
Ah, beaucoup. Je viens de terminer Years and Years.
C'est pas mal, effectivement. Alors justement, les amis, selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint devant l'écran d'accueil de Netflix ou toute autre plateforme de VOD à laquelle on est abonné. Heureusement, Zeus, dans son immense mansuétude, nous a envoyé Eva Rock. Voici 17 minutes de gagner. Eva.
Vous savez, on parlait de l'algorithme de Netflix hier qui nous cache un peu certains programmes. Eh bien, il m'avait caché notamment une série qui a été mise en ligne à la fin de l'année 2018 et dont la saison 2 vient de débuter. C'est une comédie absolument savoureuse qui est intitulée La méthode Kominsky. Alors, du nom du héros, ancien acteur, désormais professeur à Hollywood, c'est un septuagénaire en pleine forme qui est incarné avec brio par Michael Douglas. Alors dans son quotidien, il y a sa fille, ses élèves qui ne sont pas tous futés, son meilleur ami qui est son agent aussi qui s'appelle Norman, et Norman vient de perdre sa femme, Hélène. Les deux premiers épisodes racontent à la fois le décès et l'enterrement, un enterrement qui débute comme ça. Oui, c'est la musique de l'enterrement. Alors, c'est un petit peu décalé, mais c'était les instructions qui ont été laissées par la défunte, qui a aussi souhaité un cercueil en bois flotté et la présence de Barbara Streisand. Alors, la chanteuse est là, enfin presque. Ouais, en fait, Michael Douglas n'a pas réussi à convaincre Barbara Streisand de venir, mais il y a une drag queen déguisée en Barbara Streisand qui débarque. Alors, rire dans la salle. Et puis, c'est pas fini, parce que débute alors l'éloge funèbre du mari.
Le monde la connaissait surtout pour ses films cultes, comme Chantons sous la pluie et La Reine du Colorado. Mais pour moi, elle n'était bien plus. Attendez, c'est mon éloge pour Debbie Reynolds. Désolé.
Alors, c'est de la pure comédie avec un duo d'acteurs absolument formidable. Je vous ai cité Michael Douglas et vous venez d'entendre Alan Arkin. Ça tranche avec des séquences qui sont extrêmement émouvantes et qui en deviennent d'autant plus intenses d'ailleurs, même si le rire évidemment l'emporte toujours au bout du compte. Cette série a valu à Michael Douglas un Golden Globe il y a quelques mois et surtout, c'est un nouveau succès en tant que héros d'une série, lui qui a débuté dans les rues de San Francisco. Vous vous en souvenez, peut-être c'était en 1972. Alors à l'époque, Il avait choisi d'arrêter la série Les rues de San Francisco pour pouvoir participer à un film Vol au-dessus d'un coucou, autant dire que Michael Douglas sait faire des choix. Et ce personnage de Sandy Kominsky lui va à merveille, à croire qu'il y a mis beaucoup de lui. Il est formidable et il sait parler de la vieillesse à travers ce personnage. C'est absolument génial. La méthode Kominsky, c'est à voir sur Netflix. Il y a deux saisons, la deuxième saison vient de débuter.
C'est le conseil des Varocs et le conseil de Christophe Onodibio, Years and Years, que vous venez de finir.
Ou la dernière saison de Peaky Blinders.
Ah, mais Peaky Blinders, mais éternel. Arte et Netflix.
Voilà.
Merci beaucoup, Voili Voilou. On devrait réhabiliter cette expression Voili Voilou. On n'entend plus beaucoup dans les médias, je le note. Voili Voilou, c'était 17 minutes de gagné. Merci Eva. À suivre, alors que la Transat Jacques Vabre bat son plein, on vous révélera les petits secrets, surtout financiers, des grands navigateurs. Et mettre le cap au large fera du bien à tout le monde ici. Avec la chute des températures, mes chroniqueurs ont tendance à se rapprocher dangereusement. Eva, je vous ai déjà dit, cessez de ploter, Jérôme Lacroix.
Qu'est-ce que c'est que ce petit pull, Jérôme Lacroix? Il a une petite fermeture éclair, tu as vu?
Oui,
tu veux toucher?
Oui, bien sûr. À tout de suite, Moussaillon.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage se poursuit. 2 heures pour booster votre culture G et apprendre à mieux connaître une personnalité. Hier, par exemple, on recevait Patrice Lecomte pour les 40 ans des Bronzés Fonds du Ski. Et au détour d'une conversation sur la fausse modestie, on a beaucoup appris sur la mer des Varocs.
Non, mais j'ai fait des trucs pas mal. Bah oui, non, mais on peut pas. Vous savez, il y a les, comme la maîtresse de maison qui arrive avec un plan en disant c'est raté. Non, c'est pas bien, je l'ai mieux réussi. Mais Madeleine, c'est délicieux.
On dirait ma mère. Enfin, sauf que maintenant c'est vrai. Quand t'as dit c'est raté, ah oui.
On l'embrasse.
Je suis désolée, maman.
Passionnant. Oh là là, depuis le temps que j'espère en savoir plus sur la mer des Varocs et sa cousine, elle va bien, un des nombreux messages Twitter qu'on a reçus à l'issue de cette émission. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Christophe Onodibio qui nous accompagne à l'occasion de la sortie demain de son dernier livre, La Minute Antique, quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque. Et justement, alors qu'on s'apprête à parler sport et salaire des navigateurs avec Jérôme Lacroix, dans votre livre, vous évoquez aussi le statut des athlètes dans l'Antiquité et Messi et Ronaldo. Eh bien, ce sont des petits joueurs sur le plan financier en comparaison de Dioclès, le champion des conducteurs de chars.
Ah oui, ils étaient extrêmement payés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, je me souviens de bashing des athlètes. Ils étaient vraiment révérés comme des dieux, avec des statues partout.
Mais avec des salaires supérieurs à ceux de Messi, proportionnellement.
10 fois supérieurs, effectivement. Parce qu'en fait, ils portaient la notion de gloire, ce qu'on appelle en grec le kleos, la gloire. C'est-à-dire qu'on porte tout. On porte la gloire de sa ville. C'était des cités-états à l'époque, c'était pas des pays. Et donc, effectivement, on doit rendre, j'allais dire, à César, ce qu'on doit à César, mais une victoire pour la ville. On ouvrait même, il arrivait qu'on fracasse la muraille de la ville pour qu'il entre triomphalement. Sous-entendu, avec quelqu'un comme ça à l'intérieur de la cité, on n'a plus besoin de muraille.
Wow.
Donc, ils étaient vraiment, c'est des salaires. Quelqu'un avait essayé de faire le calcul. Que justement, Dioclès aurait pu, avec ses 35 millions de sesterces de gains pour 1462 victoires, nourrir toute la population de Rome pendant un an ou payer la solde des soldats de l'Empire pendant le cinquième d'une année. Donc, alors lui, c'était un origine, c'était un conducteur de chars et ça le met bien au-dessus de Messi ou Ronaldo. Voilà.
Justement, puisqu'on parle d'athlètes, Christophe Onodibio, voici ce qu'Europe 1 fait de mieux en termes de sportif. Un journaliste méticuleux, un père de famille investi, un collègue fiable, un amant inégal.
Ça dépend des jours. Parfois c'est trop court, parfois c'est trop long. Non, vraiment, c'est...
Jérôme Lacroix, cet après-midi, constatant que le sport et le pognon étaient deux choses qui passionnent les Français, vous avez décidé de maximiser vos chances en nous parlant du pognon dans le sport.
Voilà, je me permets modestement de régler mon pas sur votre pas, Christophe Onodibio, voir le présent de loin pour mieux le comprendre. Alors moi aussi, je vous emmène au loin pour des odyssées modernes auprès des marins de compétition, ces skippers, hein, pour la plupart. On en a rencontré ici à François Gabart, qui est venu il n'y a pas longtemps, des discrets, des taiseux, sauf ceux-là, le mois dernier.
C'est Leonardo DiCaprio en Titanic.
Séquence...
Bah oui, quand il est avec Kate sur le pont.
Là, ça ne coulait pas, bien au contraire. Séquence hystérie, on peut le dire, pour cet équipage australien, parce que... C'est le million de dollars, baby. Ils viennent de gagner. Ils viennent de gagner $1 million à se partager en remportant une course récemment créée par un multimilliardaire américain. $1 million. Donc, sauf que ça, c'est la voile qui cache l'océan parce qu'en vrai, la grande majorité des skippers est loin de flotter sur l'or. Alors, comment gagnent-ils de l'argent ? Chaque course auquel ils participent possède ce qu'on appelle dans le jargon des prize money, des dotations. Bah alors prenons, par exemple, vous en parliez, la Transat Jacques Vabre. C'est en ce moment. Donc ils sont partis dimanche du Havre. Il faut rallier Salvador de Bahia au Brésil. 8000 km. Bon, alors j'ai appelé la course hier qui m'a transmis les dotations. Les récompenses vont de 4100 euros à 35 000 euros selon les catégories de bateaux. Ça, c'est pour les vainqueurs. Ensuite, c'est dégressif selon si vous arrivez deuxième.
Quand on imagine la préparation du driver, c'est pas énorme. Alors, si attendez, vous le rapportez sur...
les plus tardifs, ceux qui arrivent dans les derniers, gagneront des clopinettes. Hein. Et en plus, c'est une transat en double. Faut donc partager la somme en deux. Et en plus, il faut payer d'abord des frais d'inscription. Entre 5 000 et 12 000 euros hors taxes par bateau. Alors, prenons l'exemple, comme ça on va bien comprendre, d'un binôme de la catégorie multi-50 à des petits multicoques. La victoire se joue environ en 10 jours de navigation, donc au grand large. Dotation des vainqueurs, 4 100 euros. Divisé par 2, 2050, hein, on est d'accord. Frais d'inscription de la catégorie, 6 000 euros.
Donc avec il faut payer pour participer.
Avec une ristourne de 10% si l'équipage s'était inscrit avant le 1er mars.
Mais alors, ils ne vivent pas du tout de leur métier, les skippers, en fait ?
Non, pour certains, en moyenne, les revenus sont estimés entre 2600 et 3100 euros net, revenus mensuels. Alors, c'est honnête, hein, mais pour en arriver là, les performances en mer ne suffisent pas du tout. Alors, comment faire pour tenter de vivre de cette passion-là pour eux ? Les droits télé, bah vous oubliez, il n'y en a pas. Les skippers, ils sont aujourd'hui des VRP. Ils devraient être diplômés d'école de commerce, en fait. Quand ils ne sont pas en mer, c'est la course aux sponsors qu'ils démarchent eux-mêmes pour la très grande majorité. Et une fois qu'ils ont trouvé, il n'y a pas de CDI, c'est très 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 rare. Alors ils font des conférences, des interventions en entreprise, c'est payé 10 à 12 000 euros la prestation pour les plus connus. Ces femmes et ces hommes, ils se définissent eux-mêmes comme des intermittents de la mer.
Et c'est quoi l'avenir des skippers ?
Alors il y a 30 ans, les débuts, c'était 5 000 francs en liquide, une bonne bière et un blouson, et c'était réglé. Il y a 15 ans, Michel Desjoyeux, donc on parle d'un immense nom, il arrivait péniblement à 10 000 euros par mois, donc évidemment c'est très honnête, mais dans ça, il y a le salaire du sponsor.
Mais surtout, c'était c'est un nom, c'est une célébrité.
Oui, c'est ça, c'est une immense star. Et là, il y a le salaire du sponsor, des primes éventuelles, plus des opérations commerciales. Ça évolue. Aujourd'hui, très lentement, un seul exemple, hein, pour vous donner une idée, des dotations du prochain grand rendez-vous, le Vendée Globe, l'année prochaine, c'est le Grand Tour du Monde. 200 000 euros promis aux vainqueurs. Il y a 4 ans, l'édition précédente, c'était 160 000 euros. Voilà, donc ça évolue quand même dans le bon sens, mais très lentement.
Christophe Onodibio, vous êtes natif du Havre,
oui,
si je ne m'abuse.
Cette
donc
émission
pour vous,
est magnifique.
La Havre, c'est
ouais,
bah,
en plus, c'est le café. Et quand j'étais petit, alors c'est terminé maintenant, je me souviens encore du parfum du café qui était... torréfié justement sur la route en arrivant au Havre. Et le Havre, en fait, les minutes antiques, elles ont commencé là. Parce qu'en fait, c'est au Havre que j'ai appris le grec et le latin. Ma professeure de grec était au Havre. Et c'est au Havre que j'ai rêvé de la Méditerranée.
Oui. Avec le
en voyant le ciel normand qui
n'était
pas très méditerranéen. Mais en tout cas, il y avait quand même ce mouvement, j'allais dire, odysséen, les grands départs des marins. Moi, j'avais des gens de ma famille qui travaillaient sur le France. Hein, qui était aussi le grand paquebot. Donc c'est une ville qui est tournée vers l'horizon et qui au fond est assez grecque. Elle est aussi anglaise que grecque. Elle est anglaise à cause de la bière, à cause du foot, le hack et les dockers et le port du Havre. Mais c'est une ville aussi, ouais, c'est une ville de... Il y a plein d'Ulysses qui partent du Havre et qui essaient de rentrer chez eux. Il y en avait un qui s'appelait Paul Vatine qui lui n'est pas revenu. Voilà. Et ça a été un traumatisme à l'époque du Havre. Donc ça me fait plaisir que vous évoquiez...
Noté comme tout se tient dans cette émission. Apprendre en s'amusant, c'est le projet de notre émission et de son livre La Minute Antique, quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque. Christophe Onodibio passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, comme Diogène, il vit dans un tonneau, mais pas pour les mêmes raisons.
On peut nous amener les verres et le tire-bouchon parce que je vais me mettre minable.
Il est la réincarnation belge de Dionysos. Notre spécialiste gastronomie et spiritueux, Olivier Pouls, arrive pour Delice in Extremis, la recette de dernière minute tellement épatante que vos proches penseront que vous bossez dessus depuis 3 jours. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, 2 heures à la lisière du savoir et de la déglingue, un peu comme si Brassens rencontrait la compagnie créole. Et en compagnie d'un invité d'honneur qui souvent se dévoile à l'instar hier de Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés fonds du ski, qui, 40 ans s'étant écoulé depuis la sortie du film, a estimé qu'il y avait prescription. Il a donc enfin pu se délester d'un lourd secret. Patrice, entre nous, vous pouvez plus l'entendre cette musique.
Ah non, mais j'ai jamais pu l'entendre.
Ah, vous avez jamais pu l'entendre, c'est bon.
C'est Pierre Bachelet, paix à son âme, qui
Je préférais quand il chantait les corons, moi.
Eh oui. Aujourd'hui, c'est Christophe Onodivio qui nous accompagne pour la sortie
corons,
demain.
Je peux pas.
Ah oui, mais c'est préféré.
C'est des meilleurs souvenirs.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, moi aussi, en fait. J'ai pas
les corons. Il n'y en a pas, mais le ciel blanc plus les corons.
Ça suffisait.
C'était la pendaison. Volontaire.
Aujourd'hui, c'est Christophe Onodivio qui nous accompagne pour la sortie demain de La Minute Antique, quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque. C'est en lien toujours avec l'actualité.
D'ailleurs, je vous interromps, mais on parlait du Havre. Et je me souviens, quand il était encore maire du Havre, Édouard Philippe, qui est un grand connaisseur de l'Antiquité grecque, avait fait une chronique dans Libération sur En Marche. Et En Marche, il le traduisait, c'est ambulance. Il disait, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. ANS, ambulance, là, celui qui marche, hein, comme déambulatoire aujourd'hui. Voilà, je pensais à lui, voilà, on est encore...
Mais tout à fait, voilà. Le Havre, tout est lié dans cette émission, tout se relie magnifiquement.
Et il vient ça de Juppé qui envoie des SMS en latin à Bayrou.
Et alors attendez, vous me parlez de Juppé, j'ai envie de vous parler alors des larmes.
Ah, des larmes de Juppé.
Des larmes de Juppé. Ah, oui. Quel rapport avec l'Antiquité?
Les larmes de Juppé, vous vous souvenez des adieux à la vie politique Juppé, où d'ailleurs c'était un moment assez beau, et en cela, Juppé était très romain. Alors Alain Juppé est un grand connaisseur de l'Antiquité.
Il était... Vous pensez que c'était calculé, alors?
En tout cas, je pense que quand on a pratiqué ces auteurs-là, on finit par ressembler à ceux qu'on a lus. Et il est de bon ton qu'un empereur, notamment, fasse étalage de ses larmes. Ça montre qu'il a un cœur. Donc, on n'était pas du tout dans le culte du côté, le rock, l'empereur rock. Non, on doit montrer ses larmes. Et il y a une très, très bonne chercheuse, d'ailleurs, qui s'appelle Sarah Ray, qui a consacré un livre aux larmes dans l'Antiquité et qui rappelait que les latins avaient au moins 10 verbes pour dire pleurer.
Ah oui.
Et donc Juppé a été extrêmement... Il aurait aimé, à l'époque, lui qui disait que les mœurs de la politique sont compliquées, donc ça nous rappelle O tempora o mores de Astérix.
Astérix, hein, oui, c'est ce que dit toujours le...
Mais il aurait adoré, notamment parce que chez les anciens, les larmes étaient pour un chef d'État le moyen de se distinguer du vulgaire. Tout Juppé,
résumé dans cette histoire. Le mouvement MeToo aussi a des racines grecques.
Oui, on s'est demandé au moment de MeToo, pourquoi est-ce que les femmes n'osaient pas parler? Eh bien, Ovide, l'auteur des Métamorphoses, donne la réponse. Les Métamorphoses, c'est un catalogue de légendes à faire lire à vos enfants, etc. Tout est là. Les légendes, on se transforme en arbre, en pluie d'or. C'est très leste, parfois. C'est absolument génial. Eh bien, il y a une histoire que nous raconte Ovid dans les Métamorphoses, c'est qu'en fait, les femmes ne parlent pas quand elles subissent des violences de la part des hommes, tout simplement parce qu'on leur a tranché la langue. D'abord, métaphoriquement, certes, elles n'osent pas, mais en fait, vraiment physiquement. Et en fait, Ovid nous raconte l'histoire d'une petite princesse qui s'appelait Philomèle. En fait, l'histoire d'un couple apparemment heureux. Un roi qui est avec sa femme, puis sa femme avait une petite sœur qu'elle a envie de revoir dans un autre pays. Donc elle dit, j'aimerais bien revoir ma petite sœur. Alors le mari se dit, je vais la chercher. Il prend le bateau, il va dans la cour donc du papa de sa femme, son beau-père, et la petite sœur arrive. Et elle est tellement belle, tellement impressionnante, que ses yeux, dit Ovid, se mettent presque à bouillir de désir. Il convainc le père de pouvoir emmener la petite sœur pour qu'elle aille voir sa grande sœur, qui s'ennuie d'elle. Il l'embarque. Une fois arrivé, il la viole, il lui tranche la langue et il l'enferme dans une sorte de petit fort, quoi, pour ne pas qu'elle raconte, évidemment. Bon, sans la langue, c'est plus compliqué. Et ce que va faire, en fait, cette petite princesse Philomèle, c'est qu'elle va sur une tapisserie, un peu comme Pénélope, sauf qu'elle, elle l'a terminée, contrairement à Pénélope, va raconter, en fait, ce viol. Et cette langue coupée va faire sortir la tapisserie de ce petit fort. Et donc, sa sœur va avoir connaissance de ça. Il se venge absolument terriblement de ce Weinstein avant l'heure. Donc, en fait, on sait, grâce à l'Antiquité, pourquoi les femmes ne peuvent pas dire. Donc, c'était la toile à la place de Twitter de l'époque. Le fil Twitter, d'ailleurs, est le fil de la toile. Mais en fait, c'est parce qu'on leur a, pendant des années, trancher la langue, la preuve par cette petite Philomèle. Donc, c'est vrai que quand j'entends parler de Weinstein, etc., vous me posiez la question à l'orée de cette émission. Là, tout de suite, je pense à cette histoire-là. Et comme je fais quelques recherches aussi, je relis ça et je me surprends moi-même en me disant, mais au fond, c'était déjà ça. On a l'explication.
Passionnant et malicieux. La Minute Antique sort demain aux éditions de l'Observatoire. Christophe Onodibio, notre invité jusqu'à 18h. Europe 1. À suivre, Eva, vous vous souvenez, on avait dit qu'on se mettrait au régime.
On s'en fout.
Oh, vous avez raison, la vie est trop courte, l'otium, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Nous n'en avons évidemment aucune idée. Heureusement, Délice in Extremis arrive pour nous sauver avec, je crois, un petit saumon à l'unilatéral. La recette en détail, juste après Alain Souchon, presque, sur Europe 1. Presque, c'était Alain Souchon sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures de découverte éclectique en compagnie d'un invité vedette et rythmé par des chroniques palpitantes, des quiz bien pensés et des questions intelligentes. Il paraît que vous allez adapter Maigret.
Oui.
C'est en tournage ou c'est en...
Ah non, en tournage, je serais pas là.
Aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est vrai que c'était con comme question, mais parfois comme ça dans le fil de la discussion. Bon, c'est... Aujourd'hui, c'est Christophe Onodibio qui nous accompagne pour la sortie demain de La Minute Antique, ce livre qui nous permet de relire l'actu à l'aune des mythes grecs et romains. Justement, le moment est venu, Christophe, de vous présenter notre apicius à nous. Un estomac en titane, un œsophage en kevlar, un foie capable de tout encaisser. Voici Eva.
Gérard Depardieu.
Presque. Olivier Pouls, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour toute l'équipe.
Chaque jour dans Délice in Extremis, une recette dernière minute qui vous sauve la mise. Aujourd'hui, Olivier.
Une recette particulièrement légère. Pour le bien-être de tous, je vais donc vous proposer de manger du poisson, en l'occurrence du saumon à l'unilatéral. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que
ça
le saumon à l'unilatéral?
Que c'est cuit que d'un côté, c'est
voilà.
Pas ça?
Exactement. Ah. Et l'intérêt de cette cuisson, c'est justement d'avoir des contrastes de texture. C'est-à-dire qu'en dessous, vous avez la peau qui est croustillante, qui est bien cuite. Et puis il y a un dégradé de cuisson et le dessus reste pratiquement cru. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il n'y a rien de plus écœurant, je trouve, que le saumon trop cuit.
Ah oui, ça c'est même dégueulasse, on peut dire
on
le mot.
Peut le dire.
On peut le dire.
Et donc voilà, pour obtenir cette belle cuisson à l'unilatéral, un tout petit peu de matière grasse dans une poêle bien chaude et on poêle directement notre saumon côté peau. Et on n'y touche pas. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la chaleur va monter.
On voit la couleur qui change d'ailleurs.
Et la cuisson est terminée quand le dessus commence à suinter d'un petit peu de liquide. Forcément, le poisson va rendre un petit peu de son eau. Et donc, une fois que ça commence à fristouiller un petit peu au-dessus, eh bien, c'est terminé. Votre poisson est cuit. Il est pratiquement cru au-dessus. Et puis, un joli dégradé de contraste.
On aurait noté le mot fristouiller.
Oui.
Qui est belge, peut-être.
Alors, je voulais proposer qu'on le rentre cette année dans le dictionnaire.
On va appeler l'Académie française.
Si l'Académie française peut me le valider, ça m'arrangerait, mais je ne sais pas. Et une petite sauce, la minute pour accompagner ça, un tout petit peu de fumée de poisson, un petit peu de vin blanc, une micro-goutte de crème et une huître. Vous mettez une huître dans la sauce, vous mixez le tout et vous allez voir, ça va donner un peps absolument incroyable.
Notre réalisateur, Philippe Amardet, a fait une grimace d'horreur régie au moment où vous avez mixé le tout avec l'huître. Et alors que moi, pour moi, ça m'excite plutôt.
Je pense que c'est le mot huître qui le dégoûte.
Eh bien, c'est dommage, il devrait venir goûter parce qu'on la sent à peine. Et en fait, elle apporte un petit côté iodé dans cette sauce. Ça n'a pas vraiment le goût d'huître, il n'y en a qu'une seule. Mais vraiment, c'est très 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 intéressant en termes de saveur.
Magnifique, Olivier. Eva, vous tenterez cette recette?
Pas sûr.
Comment, pourquoi?
Je vais tenter la cuisson unilatérale.
Vous n'aimez ni le fromage, vous n'aimez pas le saumon, vous n'aimez rien.
Si, j'aime tout. Non, mais
c'est pour ça que vous êtes célibataire.
Je ne l'invite plus.
Vous m'embêtez.
Mais oui, mais voilà, c'est ça la clé.
Oui, d'accord.
Si vous voulez cesser d'être célibataire, il faut aimer plus de choses.
Surtout si vous voulez pêcher un cuisinier. Quoi.
Il faut s'ouvrir à d'autres horizons. Merci, Olivier Pouls. Se cultiver en se marrant, c'est l'objectif de son dernier livre, La Minute Antique, disponible demain. Christophe Onodibio passe l'après-midi sur Europe
1.
Alors que le dénouement approche, nos quatre journalistes en compétition aujourd'hui, mais plus particulièrement Jean-Philippe Ballas, méditeront cette phrase de Sénèque. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien.
Ah ouais, donc je suis vraiment de la merde quoi.
Je n'ai pas dit ça Jean-Philippe, vous surinterprétez. A tout de suite pour le vote.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Mes agneaux, nous y voilà. La France retient son souffle. Une fois de plus, quatre journalistes se sont affrontés au service de votre culture. J'ai Jérôme Lacroix, Jean-Philippe Ballas, Anne Le Gall et Nicolas Carreau. Un seul sera élu chroniqueur du jour. L'heure est venue de dévoiler les votes. Or, Jean-Philippe Ballas le sait.
On ne peut pas tricher avec le public.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Mais ils ne trichent pas, le public. Et ils ont voté pour Nicolas Carreau en lui attribuant 2 points.
Oh, je l'adore.
2 points pour Nicolas Carreau. Je sens que vous allez faire une remontada à Nicolas. Car vous n'êtes pas très bien en classement, il faut le signaler.
C'est vrai.
En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui.
C'est dur aujourd'hui, hein. C'est dur. Ah,
j'aimerais pas être à votre place. Je dirais que c'est dans un mouchoir de poche, comme disent les commentateurs sportifs. C'est Anne Le Gall pour les lombrics, à qui j'accorde mon point. Oh, ce n'est qu'un point, vous savez, Anne Le Gall, je n'ai pas beaucoup de points.
Le début de la remontada grâce aux lombrics.
Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Christophe Onodibio, vous m'avez tout l'air d'un homme intègre, mais je précise à toute fin utile que, contrairement à ce qu'imaginait notre invité d'hier, Patrice Lecomte, aucune forme de tractation financière ne doit influencer votre vote.
Est-ce que les points accordés aux chroniqueurs peuvent se monnayer
grenouillé.
Non, non, ah ouais. Pas de magouille ici. Ou alors plus discrètement que ça. Ouais. Attention Christophe, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu?
Je suis très marin pour ça. Je veux dire, les marins qui partent sans argent sur les mers. Alors la touche, l'hommage au Havre m'a beaucoup touché. Mais bon, du coup, je peux pas. Parce que c'est trop. Voilà. L'hommage à la Villa Getty dévorée par les flammes aussi. Mais du coup, je peux pas. C'est trop évident. Les lombriques. Voilà, les lombriques, Virgile, voilà, les géorgiques, l'écologie, combat antique. Je peux pas non plus. C'était super. De toute façon, c'était excellent. Et donc, du coup, et puis vous avez dit remontada. Là, je suis très, très influencé. J'aime bien, en fait, que.
Vous avez bien ce principe. Hein.
En oui. Bon. Amateur de spectacles de gladiateurs, j'ai envie que voilà que ça soit disputé. Honnêtement, je pensais pas qu'on parlerait de Huysmans cet après-midi, voilà, à l'heure du 5 à 7.
C'est vrai.
Et donc, je vote Nicolas Carreau parce qu'il a prononcé ce mot de gardien, transmission, gardiennage. J'adore ça. C'est un peu la minute antique. C'est
très
un peu
très
ça.
Honoré.
Gardiennage et tradition.
Merci. Il remporte voilà. Haut la main, Nicolas, avec 5 points au total. La 47e journée de l'équipe sauvage. Bravo à Nicolas Carreau. Venez enfiler cette couronne.
Mais
si j'ose dire,
bien.
Je sais pas si on enfile une couronne, mais placez-la sur votre tête. On remercie encore Christophe Onodibio, dont le nouveau livre La Minute Antique sort demain aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Christophe. Merci également à mes journalistes. Eva Roque, Anne Le Gall, Nicolas Carreau, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. 2 heures de bonne humeur, c'est avec vous chaque jour, avec Eva Roque également. On vous salue bien. Mathieu, demain ce sera Olivia Ruiz, votre invité. Salut, bonne soirée à vous.